Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Alors, où en sommes-nous ? Nous en sommes au chapitre 5 de cet ouvrage qui est consacré à l'homme symbolique. Nous faisons donc le portrait de l'homme symbolique, puisque je vous rappelle que la notion de symbolique, de construction symbolique, est l'âme même de mon ouvrage. Alors, l'homme symbolique doit intégrer ce que j'ai appelé lors de la dernière émission le démonique. C'est un mot allemand qui signifie une pulsion en nous, parfois irrépressible, qui consiste à dire non à tous nos meilleurs élans, vous voyez. Donc, il y a en nous une bipolarité, l'une vers Apollon, la lumière, et l'autre vers Dionysos, le monde pulsionnel, le monde des instincts. Vous savez que l'opposition entre l'apollinien et le dionysiaque a été théorisé par Nietzsche dans son ouvrage « La naissance de la tragédie ». Alors, avec le démonique, nous sommes plutôt du côté de Dionysos. Donc, au lumineux de l'apollinien s'oppose le numineux du démonique. Numineux vient du latin « numen » qui veut dire « puissance sacrée ». Il y a là une bipolarité anthropologique fondamentale. Alors, le démon ou le démonique en nous, c'est la négation ou l'esprit de négation. Voici par exemple comment Méphistophélès, dans le Faust de Goethe, se définit lui-même. « Je suis celui qui toujours nie, et certes avec raison, car tout n'est bon qu'à s'en aller en ruine, et ce serait mieux s'il n'existait rien. » C'est la traduction de Gérard de Nerval, vous voyez. Donc il y a en nous une voix du « à quoi bon », l'aquabonisme. À quoi bon suivre nos meilleurs élans dans la vie ? À quoi bon même dire oui à la vie ? Voyez par exemple le poème de Baudelaire qui s'appelle « L'avertisseur » qui se trouve dans « Les fleurs du mal ». « Tout homme digne de ce nom a dans son cœur un serpent jaune, installé comme sur un trône, qui s'il dit « je veux » répond « non ». Vous voyez, hein ? Donc le démon, c'est le saboteur en nous. Amiel disait « Est homme non point celui qui dit « me voici » en se frappant la poitrine, par exemple, mais celui qui triomphe du saboteur qui est en lui. » Vous voyez ? Et chez Freud, le démonique, c'est la compulsion de répétition, la réaction thérapeutique négative, la pulsion de mort, finalement, tout ce qui s'oppose au principe de plaisir. C'est le travail des forces de mort contre les forces de vie, le travail de la mort dans la vie elle-même. Il y a donc chez nous parfois le refus de la guérison, de la réconciliation et un certain acharnement à se détruire. Pour Freud, c'est le nouveau visage de l'ananké ou du fatum antique. Ananké, c'est un mot grec qui veut dire exactement nécessité, la nécessité destinale. Tout cela se trouve dans le texte de Freud qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir », qui est intégré dans les nouveaux essais de psychanalyse. C'est un texte qui a été écrit en 1920 et vous voyez qu'il est donc extrêmement pessimiste. Donc la réhabilitation du démonique consistera à laisser parler en nous tout ce qu'il y a sous le plancher. C'était la conception de la poésie selon André Fresneau, vous voyez. Mais lisez par exemple « L'homme souterrain » chez Dostoïevski, dans un souterrain, c'est précisément ce qu'il y a sous la façade de la civilisation bien polissée. De toute façon, le démon parle même quand on ne veut pas le laisser parler. J'ai dit qu'en Angleterre, à Jacques l'Éventreur s'opposait Sherlock Holmes, d'accord. Mais notez que ce froid logicien, ce calculateur qui est Sherlock Holmes, ce joueur de violon dont vous voyez l'apollinien, il est aussi drogué, cocaïnomane, vous voyez. Et même certains ont vu dans le couple qu'il formait avec le docteur Watson un couple homosexuel, vous voyez. Donc, c'est dans un film La vie privée de Sherlock Holmes, vous voyez. Bon, alors sous la vertu, donc victorienne, il y a l'orage, vous voyez. Hein, on disait en mai 68, sous les pavés, la plage. Hein, eh bien, je dirais sous la vertu, l'orage. De même, vous voyez cette bipolarité apollinien-dionysiaque chez Gaston Leroux, par exemple. D'un côté, vous avez Rouletabille, hein, qui est le détective, logicien, que vous avez dans Le mystère de la chambre jaune et dans Le parfum de la dame en noir. Et de notre côté, vous avez justement la noirceur du fantôme de l'opéra ou de Chéri Bibi, par exemple. Fatalitas, vous voyez. Hein. Donc, cette bipolarité doit bien être respectée. Et à ne voir que la part de lumière de l'homme, eh bien, on va occulter l'ombre qui toujours suit l'être humain. Alors, les mythes nous montrent qu'il y a des dangers toujours dans l'exaltation. Les mythes, les fictions symboliques nous sont toujours d'un grand secours. Il faut souvent, pour voir clair en nous-mêmes, convoquer les mythes, les fables. Hein. Alors, prenons l'histoire d'Icare, par exemple. Le mythe raconte qu'Icare, fils de Dédale, voulut voler vers le soleil et Dédale, l'ingénieur, son père, lui fabriqua des ailes qu'il fixa avec de la cire. Alors au début, tout alla bien, hein, bien sûr, mais Icare voulut s'approcher de plus en plus du soleil et au contact de l'astre solaire, ses ailes fondirent et Icare fut précipité dans la mer où il se noya. Alors que signifie ce mythe ? Il peut signifier la présomption de l'homme qui verrait son orgueil ou son hybris, comme on dit en grec, châtillé. Hein. Bien sûr, c'est un des sens de cette histoire, puisque ce serait un défi porté aux lois de la pesanteur et cela s'achèverait tragiquement, selon le cycle bien connu des Grecs, koros, hybris, athée, c'est-à-dire prospérité, orgueil et colère des dieux. Alors, Icare signifie justement le danger qu'il y a à trop présumer des forces et, par exemple, des procédés techniques. Mais aussi, plus précisément, le soleil, c'est l'image ou le symbole de la clarté, de la connaissance. L'histoire voudrait donc nous dire qu'à trop s'approcher de la lumière de la connaissance, Icare risque de se brûler les ailes, comme le papillon se brûle les ailes à la flamme de la bougie vers laquelle il est attiré, vous voyez. Alors l'histoire aurait alors un sens analogue à celle de la désobéissance d'Adam et Ève dans la Genèse, puisqu'ils se sont découverts nus, c'est-à-dire désemparés et malheureux, après avoir goûté au fruit de l'arbre de la connaissance. Alors, on dit la connaissance du bien et du mal. Certains traducteurs interprètes plus astucieux disent la connaissance du bonheur et du malheur, vous voyez. Alors, en tout cas, c'est de cette façon qu'Henri Verneuil interprète l'histoire d'Icare dans son film « I comme Icare », puisque le détective ou le juge, je ne sais plus, incarné par Yves Montand, s'approche de la connaissance et ensuite est détruit par les conséquences de cette approche, par ce qu'il trouve, par les résultats de son enquête. Alors, sur les dangers qu'il y a à trop s'exalter, eh bien, on peut citer aussi l'histoire de Phaéton dans les Métamorphoses d'Ovide. Hein. Phaéton avait voulu mener le char d'Hélios, le char d'Apollon, Apollon Phoibos. Apollon, c'est le soleil, si vous voulez. Et puis, ce char s'est emballé et Phaéton a été châtié parce que sinon, le monde allait à la catastrophe, vous voyez. Et à propos de l'hybris châtillé aussi, vous voyez l'histoire de Pandore, hein, qui a ouvert la boîte justement où étaient contenus tous les bienfaits de l'humanité, et puis tous ces bienfaits se sont envolés, sauf l'espérance que Pandore a eu quand même l'idée de conserver en refermant le couvercle de cette boîte. Pandore, ça veut dire tous les cadeaux, vous voyez. Alors, dernier exemple mythique qui nous éclaire, c'est l'histoire de Psyché. C'est une nouvelle histoire de désobéissance. Psyché était mariée à Cupidon, ou Eros, si vous voulez, et elle ne devait pas le voir sous peine de le perdre. Et par curiosité, par angoisse de le voir, certains disent, parce que sa sœur l'avait poussée à faire cela, sa sœur lui disait, mais voyons, peut-être que si Cupidon ne veut pas être vu, c'est qu'il est très laid. Hein. Alors, tu devrais t'en informer. Alors Psyché, donc, prise par la curiosité, a surpris Cupidon dans son sommeil et elle l'a vu, mais alors une goutte d'huile de la lampe qu'elle tenait à sa main s'est détachée et est tombée sur la cuisse de Cupidon, et Cupidon s'est réveillé sous l'effet de la douleur. Ayant vu ainsi Psyché désobéissante, Cupidon l'a répudié. Tu as vu que j'étais beau, en quelque sorte, mais va-t'en, je te répudie, tu n'es plus ma femme. Vous voyez ? Donc, je crois que étant mariée à Cupidon, Psyché était heureuse et elle n'avait aucun besoin de désirer de le voir. Hein. Alors, bien sûr, après, il y a une variante ajoutée par les chrétiens, justement, à cette histoire. Comme Psyché veut dire en grec l'âme, certains ont dit que Psyché incarnait la désobéissance à un interdit, c'est-à-dire goûter le fruit de l'arbre de la connaissance, par exemple. Hein. Et cette désobéissance aurait été châtiée par Dieu. Mais après plein de vicissitudes expiatoires, Psyché aurait, en quelque sorte, récupéré le pardon de Cupidon, et finalement, tout se serait bien terminé. Mais je laisse de côté cette fin qui a été ajoutée à l'histoire. L'histoire telle qu'elle nous dit qu'il n'est pas possible de connaître son bonheur et qu'il est seulement possible de le vivre. Vous voyez, vie et connaissance sont incompatibles. Et c'est vrai que, par exemple, l'Ecclésiaste nous dit que celui qui s'ouvre à la connaissance s'ouvre aussi à la souffrance. Vous voyez, « Qui auget scientiam, auget et dolorem », dit la Vulgate. C'est-à-dire, celui qui augmente son savoir augmente aussi sa capacité de souffrir. Le bonheur, vous savez, il en est du bonheur comme des montres. Ce sont les moins compliqués qui se détraquent le moins, vous voyez. Hein. Bon, voilà. Alors, donc, n'enquêtons pas pour justifier ce que nous ressentons. Si nous sommes heureux, cela suffit. Donc, l'histoire, pour revenir à Icare, nous dit que précipité dans la mer, il se noie, s'anéantit ou s'engloutit. Alors, le soleil va revêtir, par contraste, une nouvelle signification. La maîtrise de toute chose par le conscient, précisément l'apollinisme, puisque le soleil est le char d'Apollon. Et la noyade deviendra la submersion par l'inconscient, ou bien, pour reprendre l'opposition de Nietzsche que j'ai déjà signalé, l'engloutissement dans le pôle dionysiaque de l'être. Donc toute maîtrise appelle une chute, toute attitude de domination consciente appelle comme réaction ou choc en retour l'attitude inverse, vous voyez hein. Tout extrême psychologique appelle en secret son contraire. Et plus une orientation est unilatérale et marquée, plus on doit s'attendre à sa transformation en son contraire. Cette transformation brutale et inopinée, Carl Gustav Jung l'a appelé, après Héraclite, énantiodromie, c'est-à-dire basculement, retour vers le contraire, vous voyez hein. Alors le problème, c'est que cette transformation est subie et nous prend à revers. Les dieux se vengent d'être méprisés, ils viennent alors prendre leur victime sans nous demander notre avis. Thank you. Voilà, alors récapitulons, Icare incarne premièrement le danger qu'il y a à vouloir défier les lois naturelles, deuxièmement le malheur qu'il y a à vouloir tout connaître des choses, troisièmement le péril qu'il y a à vouloir tout maîtriser par la conscience. Et on pourrait ajouter un quatrième point, le péril qu'il y a à vouloir s'élever à tout prix vers l'idéal, loin de la prose de la vie. Ainsi, Icare a trop s'exalter de façon idéaliste, poétique ou éthérée, finirait par s'engloutir dans la vie des instincts satisfaits, dans la banalisation, l'oubli total de son âme, ce que marquerait la noyade finale. Ce dernier schéma d'explication est celui qui est soutenu par Paul Diehl dans un livre essentiel qui s'appelle « Le symbolisme dans la mythologie grecque », vous voyez. La vie, évidemment, n'est pas toujours élevée, n'est pas toujours poétique. Elle est aussi triviale, prosaïque, elle est médiocre. Elle ne correspond pas à toutes nos aspirations. Alors, on peut, par réaction, s'engloutir dans cette médiocrité, puisqu'on voit que ce à quoi on aspirait n'existe pas. Donc, cette opposition entre la vie médiocre et l'idéal se trouve dans le poème de Baudelaire qui s'appelle précisément « Plainte d'un Icare ». Il a voulu embrasser les nuages, les nuées, et puis il s'est aperçu que la vie ne correspondait pas à ce qu'il en espérait. Donc, pour résumer, orgueil du technicien et de l'ingénieur, Dédale, présomption du savant, fierté du civilisé et de l'homme qui se contrôle, ambition démesurée du poète et de l'idéaliste, tout cela est battu en brèche par le destin d'Icare. Donc, le mythe nous dit qu'il y a une mesure à garder dans toute chose, comme on dit en latin, est modus in rebus, il y a une mesure dans les choses. Alors, je pense par exemple au manque d'équilibre ou à la cyclothymie de l'artiste, ou bien de l'homme immature, ou bien de l'adolescent. Tantôt il s'exalte démesurément, tantôt il s'avachit, comme on dit trivialement, ou bien il se banalise tout aussi démesurément. Voyez aussi les fameux troubles bipolaires qui se caractérisent par l'alternance de phases d'exaltation, phases maniaques, mania, la folie exaltée, et des phases de dépression, vous voyez. Et alors toute l'âme romantique, précisément, est dans cette instabilité. Elle va d'un pôle d'exaltation, celui d'Icare, à un pôle de banalisation, disons celui de Dionysos par exemple. Et les deux pôles sont tout aussi excessifs l'un que l'autre. Voyez par exemple l'œuvre et la vie de Musset là-dessus. Musset commence par être Werther, c'est-à-dire un amoureux transi, correspondant à l'image qu'on se fait du romantisme. Et puis il finit par être Don Juan, c'est-à-dire un jouisseur, un séducteur jouisseur. Il va d'un pôle à l'autre, de l'opposé à l'opposé, pour ainsi dire. Et il est les deux extrêmes à la fois. Alors, je cite, par exemple, pour l'exaltation de Musset, « La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous avez vécu si vous avez aimé. » Ça se trouve dans les nuits. Mais pour la banalisation du même Musset, vous avez dans « La coupe et les lèvres » le vers suivant, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, vous voyez. Donc Musset est ballotté, tiraillé entre le pôle qui l'exalte et puis par réaction l'opposé, vous voyez. Et cette histoire symbolique d'Icare est pour nous de la plus haute importance. La connaissance de tel mythe n'est pas seulement affaire de curiosité intellectuelle, pas du tout, mais elle est préscience de notre destin. En effet, quiconque veut tout contrôler et maîtriser, à commencer par lui-même, risque de tomber effectivement. Et à bien des égards, l'histoire d'Icare peut prédire à certains ce qui peut leur arriver. Alors, je ne veux pas dire qu'ils tomberont dans leur escalier, pas du tout, mais qu'ils tomberont quand même, ils tomberont autrement. Ainsi, la chute symbolique de tous ceux qui tendent constamment dans le contrôle d'eux-mêmes vers la maîtrise hein, et vers l'affirmation de valeurs élevées, vie poétique, non médiocre, etc., c'est la survenue d'une décompensation soudaine et non prévue, c'est-à-dire, en termes médicaux, l'installation inopinée d'une dépression nerveuse, vous voyez hein. Et alors, on voit arriver la notion d'acédie, alors acédie, A, C et accent aigu, D, I, E, hein. C'est-à-dire le désintérêt pour tout. Hein. Cette acédie va succéder à la tension. Il faut en effet se méfier du démon qui ravage à midi, que l'on a dans le psaume 91. Tous les photographes le comprendront, hein. Midi est une très mauvaise heure de la journée pour photographier, puisque midi rend tout plat et sans saveur. Finalement, les plans ne sont pas séparés en profondeur, hein. Tout est écrasé. Hein. Donc, à midi, comme dans la mi-vie, hein, s'installe le fameux « à quoi bon ?»« À quoi bon tout cela ?» Et c'est ça, l'acédie. Hein. Alors, je donne quelques exemples. L'exaltation est figurée par Don Quichotte, par Emma Bovary. Et la banalisation est figurée par Sancho Panza et par Monsieur Homais, hein, dans Madame Bovary, le pharmacien. Hein. Donc, sur le basculement d'un pôle à l'autre, voyez par exemple l'analyse de la psychose maniaco-dépressive telle que l'a faite Julia Kristeva. Hein. Alors, quand s'installe justement cette acédie, hein, « De chagrin, mon âme ne dort plus hein, », le psaume 91, hein, « Akedias, apo Akedias hein, », par l'acédie, par le désintérêt. Hein. L'acédie, normalement, c'est réservé à ce dégoût de la vie, « taedium vitae », par exemple, hein, comme on dit en latin, « dégoût de la vie » qu'éprouvent les moines dans les monastères. Hein. Est-ce que leur vocation les satisfait vraiment? Et alors, ils ne s'intéressent plus à rien. Mais moi, je prends le mot acédie, hein, que je tire justement de la Septante, c'est-à-dire de la traduction grecque de la Bible à Alexandrie, hein, et que je trouve dans le psaume 91, comme finalement une situation que tout homme connaît dans sa vie. Hein. Donc, on ne se plaît pas à soi-même, sibi displicere, hein, ça a été analysé par Lucrèce, par Sénèque, hein, cet état dépressif, hein. La dépression nerveuse, justement, pendant quelque temps, on compense justement les insuffisances de la vie, mais puis après, on va décompenser et chuter. Alors, sur cette dépression nerveuse, vous voyez par exemple les textes de William Styron, « Face aux ténèbres », ou encore « La fêlure » de Fitzgerald, hein, « The Crack-up », qui commence de la façon suivante. Évidemment, toute vie est un processus de démolition. La dépression vient du sentiment que tout est faux, que tout sonne faux. Et ce sentiment n'est pas un aveuglement, mais au contraire, une hyperlucidité. Alors, dernier point sur l'acédie et sur le fameux démon de midi. Ce démon qui ravage à midi, il ne faut pas le prendre dans le sens petit bourgeois et habituel, un homme installé dans la vie, à la mi-vie, qui s'en va avec une jeunesse. Ce n'est pas que cela. Hein. C'est cet accablement qui nous saisit quand nous nous rendons compte que toutes les noix sont creuses, que la vie n'a plus de sens, n'a plus d'intérêt. Comme le dit l'Évangile, si le sel perd sa saveur, comment la lui redonnera-t-on? C'est une très bonne chose que le sel, mais s'il perd sa saveur, comment la lui redonnera-t-on hein? Il n'est bon qu'à être foulé aux pieds ou jeté au dehors. Vous avez le passage sur le sel dans les trois évangiles synoptiques, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, vous voyez. Donc, quand les choses perdent leur sel, à ce moment-là, comment faire hein? De chagrin, mon âme ne dort plus, apo akedias, relève-moi selon ta parole, dit le psaume 91. Mais enfin, bon, pour l'agnostique qui ne croit pas à la parole de Dieu ou pour l'athée, comment peut-on faire pour se sortir de cette situation? Quoi qu'il en soit, ce sentiment n'est pas un aveuglement, mais une hyperlucidité. Hein. Je dirais, prenons le cas des fous, je dirais que les fous sont hyperlucides. Quand ils voient le décalage entre les idéaux et le réel, ils ont vraiment... ils ne perdent pas la raison, mais au contraire, ils poussent au point extrême leur capacité de réflexion. Les fous, je dirais, ne sont pas fous alliés, mais lucides solides alliés, vous voyez. Je pense à l'exemple d'Artaud. Hein. Artaud disait, dans une lettre de Rodez à Jean Paulhan du 19 avril 1946, « Quelle étrangeté que mes invectives contre le mal ne soient pas supportées, mais que la guerre et les camps de concentration le soient, vous voyez. » Donc, il était lucide allié, il voyait très bien tous ces décalages, vous voyez, il écrit cela à propos de son émission radiophonique qui a été censurée longtemps et qui s'appelait « Pour en finir avec le jugement de Dieu », vous voyez. Hein. Donc ce sentiment de la facticité, de la superficialité des choses, vous l'avez dans énormément de romans, j'en ai cité quelques-uns. Vous voyez aussi « American Psycho » de Britt Allison Ellis, hein, « Sentiment d'un monde de seule surface hein, où rien n'a plus de profondeur ». Donc, ce passage, justement, de l'angélisme à son contraire, doit nous faire réfléchir sur cette notion, précisément, d'angélisme, de prise à la fois de façon individuelle et collective. Hein. Pascal disait « L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. » Le péché d'angélisme, comme on le dit en théologie, il est là. Vouloir trop s'élever, comme Icare par exemple, être trop parfait, hein, et il appelle évidemment immédiatement une chute, parfois tragique, comme dans le cas d'Icare, parfois aussi grotesque ou ridicule, comme il se voit chez certains dévots, par exemple Tartuffe de Molière. Alors je cite la strophe à propos de Tartuffe, hein, « À ce point qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tuée avec trop de colère. » Donc vous voyez comment la piété peut être folle. Hein, et à force de se vouloir un ange, on devient une bête. Hein. Alors parfois aussi, l'angélisme n'est pas seulement ridicule, comme dans le cas de Tartuffe, mais il est odieux ou barbare. C'est le propre d'une âme fanatisé. Prenons par exemple l'histoire de Tantale. Tantale, pour se rendre agréable aux dieux, ou selon une autre version, pour voir quelle serait leur réaction, leur avait offert à manger son propre enfant, Pélops. Hein. Et alors, ce fut un acte inhumain que les dieux avaient repoussé avec horreur, et pour cela, ils avaient puni Tantale du supplice qui depuis porte son nom, avoir soif et être auprès d'un cours d'eau sans pouvoir se désaltérer. Donc l'erreur de Tantale a été d'avoir voulu être trop parfait, de s'identifier au numineux ou à l'archétype divin, au mépris de l'humanité qui était en lui. Il se voulait plus qu'un homme et il fut moins qu'un homme. Et toute l'histoire des hommes est pleine d'hommes comme lui. Vous voyez, par exemple, Agamemnon, hein, qui a sacrifié sa fille aînée, unique, Iphigénie, hein, ou Abraham, qui avait cru qu'il lui fallait sacrifier à Dieu son fils Isaac. Vous voyez, hein. Alors, donc, dans le cas de la version biblique, eh bien, à la fin, il y a substitution d'un bélier à Isaac. Hein, dans le cas d'Iphigénie aussi, mais dans la version de d'Ovide, hein, où une biche est substituée à Iphigénie. Mais si vous regardez la version de Lucrèce, Iphigénie est effectivement sacrifiée. Hein. Quant au sacrifice ou à la ligature d'Isaac, comme disent les Juifs, eh bien, il y a quelque chose qui fait frémir, c'est qu'à la fin de l'épisode, je crois que c'est Genèse 22, à la fin, Abraham revint vers ses serviteurs, il revint au singulier. Et ce singulier est vraiment bien singulier, hein, où est passé Isaac. Bon, voilà, je referme ma parenthèse. Donc, l'angélisme, c'est le fait de vouloir être parfait, c'est quelque chose soit ridicule, comme je l'ai dit, soit aussi dangereux. Quelque chose de dangereux. Hein. Voyez par exemple Savonarole à Florence, hein. Il se voulait pur et il était très fanatique aussi. Hein. Voyez la pièce de Salacrou, La Terre est ronde, qui raconte cette histoire-là. Hein. Il y a, je pourrais dire, le complexe des écuries d'Augias. Hein. Donc il faut purifier tout cela. Hein. Donc il y a un angélisme exterminateur. Hein. Et ça peut être catastrophique. Vous pouvez pouvez avoir un fantasme de la race pure, hein, catastrophe des purifications ethniques diverses. Mais notez aussi que notre hymne national, notre Marseillaise aussi, est raciste, hein, le fameux « sang impur », vous voyez, hein. Alors, je crois qu'il faut bien distinguer, justement, dans ces choses, le point de discernement où l'on passe d'une postulation qui peut, une posture qui peut être défendable à tout prix, à son contraire, qui peut être catastrophique. C'est très difficile de voir le point de discernement, hein. Molière le dit très bien, hein. Les hommes, à mon avis, sont étrangement faits. Dans la juste mesure, on ne les voit jamais. Et la plus noble chose, ils la gâtent souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant. Vous voyez, je crois que c'est dans le Misanthrope, ce que dit Philinte à Alceste. Eh bien voilà, nous allons rester maintenant sur notre éloge de la mesure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette réflexion sur le portrait de l'homme symbolique. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.